Le 13-14, Marion Lourd.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver, bienvenue dans ce 13-14, à la une aujourd'hui. La hausse des prix de l'énergie n'est pas une mauvaise nouvelle pour tout le monde. Profit géant pour Total Energy au dernier trimestre, des bénéfices multipliés par 23. On fait les comptes dans un instant. Bras de fer en mer entre Londres et Paris. Le Premier ministre se dit ouvert aux discussions, mais la France promet de sévir et brandit des mesures de rétorsion dès vendredi prochain contre le Royaume-Uni accusé de ne pas respecter ses engagements sur la pêche dans le cadre du Brexit. Les pêcheurs n'en peuvent plus à l'image de ce professionnel de Granville.
C'est de la lassitude parce que depuis 10 mois maintenant... Donc on attend, on est pendu aux annonces du gouvernement. Ceux qui l'ont eu, la licence, n'ont pas spécialement les jours de pêche qu'ils veulent. Bah, c'est ça le problème, on nous promet plein de choses, que ça va bouger, mais il n'y a rien du tout depuis 10 mois. Quoi.
On en parle avec Annick Girardin, ministre de la Mer. Elle sera la première invitée du 13-14. Dans le journal encore, des idées reçues battues en brèche sur l'immigration. Les flux migratoires vers les pays développés se sont effondrés l'an dernier. Ils coûtent aussi très peu d'argent aux États. C'est la conclusion d'un rapport de l'OCDE. On parlera aussi de ce nouveau traitement contre la Covid commandé par la France, mais quand sera-t-il disponible et pour qui? Retour ensuite sur ce projet de coup d'État fomenté par le complotiste Rémi Daillé. France Inter vous dévoile les détails. La SNCF s'ouvre à la concurrence, première historique en région PACA. Et puis, dans la deuxième demi-heure du 13-14, un robot mythique et une tendance lourde du monde de l'édition. Les éditions Cana publient un album hommage à Goldorak, 45 ans après son apparition. L'occasion de parler aussi du succès phénoménal du manga, notamment grâce au Pass Culture. Votez témoignages et questions 01 45 24 7000 et sur l'appli France Inter.
France Inter. Le 13-14.
Les prix de l'essence et du diesel grimpent, le prix du gaz flambe sur les marchés même si le tarif réglementé est bloqué et notre porte-monnaie s'allège. Malgré l'indemnité inflation annoncée par le gouvernement, le moral des ménages est reparti à la baisse le mois dernier face à cette hausse des prix, mais celui de certaines entreprises est au beau fixe. Bonjour Philippe Lefebvre.
Bonjour Marion.
Total Energy annonce aujourd'hui un bénéfice net multiplié par 23 au troisième trimestre, soit près de 4 milliards d'euros.
Et oui, et c'est en grande partie une question d'offres et de demandes qui est à l'origine de cette hausse qui ferait rêver plein de capitaines d'industrie. L'économie mondiale repart, particulièrement en Asie, hein, l'atelier du monde, et logiquement les entreprises, les usines, mais aussi le transport, les bateaux, les avions ont besoin d'énergie, donc fatalement les prix du pétrole et surtout du gaz s'envolent. Deux exemples, plus 85% pour le gaz, plus 7% pour le pétrole, et logiquement ces hausses profitent aussi aux compagnies pétrolières comme Total Energy, qui a de surcroît augmenté de 4% sa production en 2020, mais le géant français des hydrocarbures n'est pas le seul à gagner beaucoup d'argent en ce moment. Par exemple, Shell a quadruplé ses bénéfices. Et mauvaise nouvelle pour nous, les consommateurs, eh bien, cette flambée des cours devrait continuer au moins jusqu'au printemps prochain. C'est ce que prédisait ce matin Patrick Pouyanné, le PDG de Total Energy. Et donc, il faut s'attendre à de nouvelles hausses au moment de faire le plein de sa voiture, de payer sa note de gaz ou même de payer sa facture d'électricité. Et il n'y a pas que Total qui devrait gagner beaucoup d'argent dans cette histoire. L'État français aussi, car rappelons-le, dans le prix d'un litre de super samplon 95, il y a 57,1% de taxes. Et pour un mètre cube de gaz, là, nous sommes à 27% de taxes.
Philippe Lefebvre du service économie de France Inter, merci à vous. Et si Total Energy et l'État donc peuvent se réjouir, les constructeurs de voitures, en revanche, subissent encore la pénurie des semi-conducteurs. L'allemand Volkswagen voit chuter ses bénéfices par manque de puces électroniques. L'industriel a dû produire 600 000 véhicules de moins au troisième trimestre. Même baisse de production chez Stellantis, ex-PSA. C'est une première depuis l'échec du méga contrat de vente de sous-marins à l'Australie par la France, contrat finalement attribué aux États-Unis. Emmanuel Macron s'est entretenu ce matin avec le Premier ministre australien Scott Morrison. Le président français dénonce une rupture de confiance. Pour lui, il appartient désormais à Canberra de proposer des actions pour redéfinir les bases de la relation. On parle bateau, toujours la mer, théâtre d'un bras de fer entre l'Union européenne et la France, surtout, et le Royaume-Uni accusé de ne pas respecter l'accord post-Brexit sur la pêche. Deux navires ont été verbalisés hier soir par les autorités françaises au large du Havre, des navires britanniques. Paris annonce des sanctions pour mardi prochain si rien n'est fait, contrôle renforcé, interdiction pour les Britanniques de débarquer dans certains ports français. Bonjour Richard Place.
Bonjour.
Correspondant de France Inter au Royaume-Uni, ces annonces, elles provoquent la colère de Londres.
Oui, colère de Londres qui pourtant là appelle à la désescalade ces dernières minutes, mais c'est vrai que c'est monté très haut hier avec les déclarations de Gabriel Attal, c'est monté encore plus haut avec, vous le rappeliez, la verbalisation de ces deux chalutiers. L'un des deux a même été ramené à quai au Havre. Le propriétaire de ce chalutier dit pourtant qu'il exerçait en toute légalité et il s'estime être le pion d'un jeu politique entre Londres et Paris. On le sait depuis le Brexit, depuis la sortie du marché européen le 31 décembre dernier, cette question de la pêche est centrale dans la négociation de l'accord Brexit. C'est le dernier point qui a été négocié, sans doute pas suffisamment et sans doute pas assez précisément, car dans les textes aujourd'hui, pour permettre aux bateaux de pêcher, il y a visiblement des sujets à interprétation et l'on n'interprète pas de la même manière que l'on soit d'un côté ou de l'autre de la Manche. Côté britannique, aujourd'hui, on rappelle que 1673 navires de l'Union européenne ont été autorisés à pêcher dans les eaux du Royaume-Uni. 98% de ceux qui ont demandé l'accès, dont 736 au total, sont des navires français. Pourtant, la France en réclame encore plus et estime que les contrôles sont drastiques et trop zélés de la part des autorités britanniques. On le voit, c'est une nouvelle fois, après aussi la question des migrants, celle du protocole nord-irlandais, un bras de fer entre la France et le Royaume-Uni.
Richard Place, correspondant de France Inter à Londres. On passe à la version française sur ces sanctions qui devraient donc entrer en vigueur contre le Royaume-Uni mardi prochain. La ministre de la Mer, Annick Girardin, est notre invitée. Bonjour.
Bonjour.
Alors les relations se tendent entre France et Royaume-Uni. Vous dites que Londres ne respecte pas les engagements post-Brexit sur la pêche. Deux bateaux britanniques ont été verbalisés au large du Havre. Un des deux est toujours retenu à l'heure qu'il est.
Alors deux navires effectivement anglais ont été verbalisés, dont un a été dérouté vers le Havre hier après-midi, c'était dans la baie de Seine au large du Havre. C'est la gendarmerie maritime, c'est le bateau Athos qui est intervenu et un a été verbalisé parce qu'il y avait entrave au contrôle et l'autre dérouté parce qu'il n'avait pas d'autorisation de pêche dans la zone française.
Donc il est toujours retenu alors qu'il est.
Tout à fait.
Parce qu'il n'a pas effectivement de licence, ça peut durer combien de temps?
Ah bah écoutez, il y a obligatoirement derrière des sanctions qui seront prises. C'est le juge des libertés de la détention qui peut prononcer à la fois peut-être saisie des produits de la pêche, immobilisation du navire, contre paiement d'une caution. Enfin, ça ne m'appartient pas de commenter, mais c'est ce qu'il devrait maintenant arriver.
Le combat, vous appelez ça un combat entre Londres et Paris, porte notamment sur la question des licences de pêche qui devraient être accordées pour les Français dans le cadre de l'accord post-Brexit. Les autres pays ont quasiment tous eu leurs licences. Finalement, ça nous est réservé ce traitement de ne pas délivrer toutes les licences ?
Bah écoutez, il semble. Alors en même temps, on est très concerné dans des eaux qui sont la baie de Granville où on partage effectivement ces eaux avec Jersey et Guernesey. Hein, c'est nos voisins. Nous avions un accord de la baie de Granville que l'accord entre le Royaume-Uni et la Commission a écrasé. En clair, cet accord a été écrasé par le Brexit. Donc aujourd'hui, les relations doivent être réorganisées autour de nouvelles licences données par Jersey, donné par Guernesey aux marins effectivement français et réciproquement d'ailleurs. Et puis il y a la pêche dans les 6-12 000, c'est-à-dire les Français aller dans les 6-12 000 du Royaume-Uni pêcher de manière, on a une antériorité, donc des antériorités que l'on doit démontrer et que l'on garde aujourd'hui puisque c'est préservé effectivement dans l'accord. Ce que l'on demande,
ça,
oui, c'est la mise en place de l'accord, rien que l'accord. Le Royaume-Uni a signé cet accord, il doit effectivement maintenant délivrer les différentes licences. Vous savez, on avait dit aux pêcheurs en un mois, c'est réglé. Le commissaire européen avait dit en un mois, c'est réglé. Ça fait maintenant 9 mois.
Et pour être très clair, il en manque combien des licences aujourd'hui pour les pêcheurs français ?
Il en manque 184 licences aujourd'hui et nous nous battrons effectivement. Ce sont des droits pour ces marins, pour ces navires. Je vous rappelle qu'un emploi en mer, c'est 4 emplois à terre, ce sont des hommes, ce sont des femmes. Ce sont des activités économiques de notre côte française, de la Manche en l'occurrence, des marins des Hauts-de-France, des Normands, des Bretons qui ont des droits et nous allons défendre leurs droits jusqu'au bout. C'est ce que le président de la République a dit au lendemain de notre acceptation de cet accord.
Alors l'explication d'un ministre britannique aujourd'hui, c'est que les pêcheurs français ne donnent pas les justificatifs. Ils doivent justifier notamment qu'ils pêchaient avant la date du Brexit dans les eaux britanniques. Ils ne fourniraient pas ces documents en fait. Qu'est-ce que vous répondez ?
Écoutez, ça fait 9 mois que l'on fournit la totalité des documents qui nous sont demandés. Après, c'est vrai, les moins de 12 mètres dans la baie de Granville, je ne sais pas si vous réalisez ce que ça veut dire, c'est-à-dire en face de leur maison, hein, ils vont pêcher. Eh ben, ils n'ont pas obligatoirement là tous les moyens technologiques à bord de leur bateau, parce que ce n'est pas une obligation pour démontrer qu'ils sont là. Donc la difficulté, c'est quoi? C'est que après avoir signé un accord, le Royaume-Uni met conditions supplémentaires. Quand on est un gros navire, on y répond sans problème. Quand on est un petit navire, et c'est ce qui arrive dans les 6-12 000 comme dans la baie de Granville, eh bien on a moins les moyens de démontrer par des éléments dits informatiques, pas si on veut le dire comme ça. Donc nous, on a dit à partir du 2 novembre, eh bien 4 mesures seront appliquées. C'est effectivement le renforcement des contrôles sanitaires et douaniers.
On a des moyens de ça.
Le débarquement des navires de pêche britanniques dans les ports français, c'est le contrôle systématique de sécurité des navires britanniques, et puis c'est le renforcement des contrôles des camions. Oui, on a les moyens, on fera des contrôles ciblés.
Mais donc, que disent les ports qui sont concernés, les ports français? Ça ne leur plaît pas forcément de savoir qu'ils vont avoir une activité en moins avec les navires britanniques qui ne débarqueraient plus.
On ne fera pas du zéro dégât, c'est évident. Mais quand on mène un combat, eh bien c'est le risque que nous prenons. Et la défense des droits des pêcheurs français nécessite que nous mettions en place l'ensemble de ces restrictions. On ne peut pas accepter le comportement des Britanniques qui ne respectent pas leur signature, qui mettent des conditions supplémentaires au fur et à mesure que l'on avance. Ça, ce n'est pas acceptable.
Annick Girardin, la France menace aussi d'agir sur les tarifs de l'énergie pour les îles anglo-normandes. Ça peut aller jusqu'où, ça?
Alors le Premier ministre, comme le Président de la République, n'ont exclu aucune mesure. Chaque chose en son temps, il peut y avoir effectivement une nouvelle salve de mesures. Et on n'exclut pas effectivement la question des énergies qui peuvent toucher Jersey, Guernesey comme le Royaume-Uni.
Dernière question, Annick Girardin, je vous demande une réponse très courte. Vous étiez ministre des Outre-mer, le gouvernement doit organiser un 3e référendum sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie le 12 décembre prochain. Rien de sûr pour le moment vu la situation sanitaire. D'après vous, il faut le maintenir ou pas?
Alors écoutez, moi je n'ai pas de commentaire à faire sur le maintien ou pas, un ministre des Outre-mer s'en occupe, j'ai qu'une chose à dire, la même chose que ce qu'a dit le président de la République, la France ne serait pas la France sans la Nouvelle-Calédonie.
Annick Girardin, ministre de la Mer, qui a répondu à France Inter en milieu de matinée, juste après le Premier ministre s'est dit, je cite, « ouvert aux discussions avec Londres s'il respecte ses engagements ». On en parlait à l'instant, le référendum en Nouvelle-Calédonie sur l'indépendance de ce territoire d'outre-mer, le gouvernement est tenu de l'organiser entre fin 2021 et fin 2022. La date choisie était le 12 décembre et Maxence Lambrec, malgré l'épidémie et l'appel au boycott des indépendantistes, le ministère des Outre-mer semble bien vouloir la maintenir.
Oui, Emmanuel Macron souhaite ce dernier référendum avant la fin de son quinquennat, car la situation économique politique ne cesse de s'y détériorer. Il y a le feu au lac, constate le gouvernement. Il faut avancer, arrêter, je cite, ce méli-mélo bordélique dont tout le monde se lasse. Le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, invité ce matin de France Info.
On peut pas, parce qu'un des deux camps demanderait à changer la date, dire oui, bah tiens, sur un bout de table, je choisis un changement de date. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut l'objectiver pour de bonnes raisons. Mais il est clair qu'il est trop tôt, malheureusement, pour avoir une projection sanitaire fine qui nous permet d'établir si le 12 décembre peut être maintenu ou pas. Mais je l'ai déjà dit, dans une démocratie, on tient ces élections à l'heure. Le principe, c'est qu'il a lieu le 12 décembre. L'exception, c'est qu'il doit être reporté.
Le ministère regardera dans une dizaine de jours les taux d'incidence, de vaccination, de positivité pour trancher. Mais d'ici là, les renforts de gendarmerie arrivent à Nouméa. Le scrutin se prépare. Les indépendantistes appellent au boycott car ils savent qu'ils ont perdu. C'est un refus d'obstacle, assure-t-on au ministère des Outre-mer. Ça leur permettra de contester le résultat. La crise du Covid a changé la donne. L'État est apparu là-bas incontournable. Les conséquences concrètes d'une pleine indépendance ont refroidi une bonne partie des indépendantistes.
Un budget français en hausse pour l'immigration. Les députés l'ont adopté la nuit dernière. Plus 3% à 1,9 milliard pour agir plus et mieux, affirme le gouvernement. Il s'agit notamment de créer des places dans les centre d'accueil. Et pourtant, les immigrés ne coûtent rien ou très peu aux États. Ça, c'est l'enseignement surprise de l'étude de l'OCDE portant sur ses 25 membres, France comprise. Autre donnée dévoilée par l'organisation, aujourd'hui, un effondrement inédit des flux migratoires, moins 30% l'an dernier sur fond de crise sanitaire. Bonjour Clémence Pénard.
Bonjour.
Ce rapport de l'OCDE, il bat donc en brèche les idées reçues. Hein.
Effectivement, d'abord, les flux migratoires ont énormément baissé vers les pays de l'OCDE, une diminution colossale due évidemment à la crise du Covid. Les États-Unis, par exemple, premier pays d'immigration de l'OCDE, enregistrent une baisse de 44% de leur flux migratoire comparé à l'année 2019. Autre point mis en avant par le rapport, le coût réel de l'immigration, une question qui focalise le débat public, et on apprend que ce coût serait en fait positif. L'OCDE montre que les contributions versées par les immigrés, impôts, cotisations, sont en fait au même niveau, voire supérieures aux dépenses que les pays consacrent à la protection sociale, la santé et l'éducation des immigrés. Dans des pays comme en Italie ou en Espagne, où il y a beaucoup d'immigration récente et jeune, une véritable force de travail si on en lui donne les moyens, on aura une contribution plus positive et vice-versa. Selon l'OCDE, en France, avec une population immigrée plus vieillissante, la situation serait donc intermédiaire.
Clémence Pénard pour France Inter, merci à vous. Plus d'inondations, plus de chaleur, plus de sécheresse à l'horizon 2050, à l'approche de la COP26, grande rendez-vous sur le climat en Écosse. Les assureurs français s'inquiètent des coûts engendrés par ce changement climatique. La facture de ces aléas dits naturels devrait quasiment doubler. Bonjour Agnès Soubiron.
Bonjour.
Selon la Fédération de l'assurance, il s'élèverait à 74 milliards d'euros ces 30 dernières années. On arriverait à 143 milliards pour les 30 prochaines.
Oui, une hausse spectaculaire qui s'explique d'abord par l'enrichissement de notre pays. Une tempête qui balaie un secteur donné provoque aujourd'hui beaucoup plus de dégâts qu'il y a 20 ans en raison de la densification de l'habitat et des zones industrielles. Plus de maisons, plus de bâtiments, dont la valeur moyenne est aussi en progression. Cela signifie des indemnités plus importantes à verser. Cela pèse pour la moitié dans le calcul de l'augmentation des coûts prévus à l'horizon 2050. Le deuxième facteur d'augmentation est lui directement lié au changement climatique. Et c'est la sécheresse qui inquiète le plus les assureurs, avec un montant des dégâts qui devrait tripler d'ici 30 ans. 5 départements particulièrement à risque, la Haute-Garonne, la Gironde, les Bouches-du-Rhône, le Tarn et le Tarn-et-Garonne. Alors en publiant cette étude, la Fédération française de l'assurance entend tirer la sonnette d'alarme. Cela signifie-t-il que les cotisations vont augmenter? Ce n'est pas à l'ordre du jour, affirme Florence Lutzmann, présidente de la Fédération.
On ne peut évidemment pas l'exclure totalement à terme. Pour le moment, on étudie d'autres solutions et en particulier toutes les solutions qui tournent autour de la prévention, parce que la prévention, c'est toujours très efficace.
Une prévention qui passe par l'organisation au plat local de ce qu'on appelle des journées japonaises pour apprendre aux habitants à avoir les bons réflexes en fonction des risques dans leur secteur. Une prévention qui implique aussi les pouvoirs publics avec le sujet toujours très sensible des permis de construire en zone inondable.
Agnès Soubiran, service économie de France Inter. L'assurance chômage et sa réforme. Maintenant, on parlait ici même hier des très bons chiffres de l'emploi en France. Chômage en baisse de près de 10% sur un an. Conséquence, les nouvelles règles de l'assurance chômage vont bien s'appliquer au 1er décembre, confirme aujourd'hui la ministre du Travail sur France Inter. Il faudra avoir travaillé 6 mois et non plus 4 pour toucher l'indemnité. Et ça sera dégressif au-delà du 6e mois et non pas du 8e pour les plus gros revenus. Fabien Cazot, cela provoque la colère des syndicats unanimement opposés à ces mesures.
Les syndicats continuent de dénoncer une réforme d'économie faite sur le dos des chômeurs, citant l'UNEDIC qui reconnaît elle-même que les nouvelles règles sont censées contribuer au redressement des comptes l'an prochain. Le gouvernement de son côté défend l'idée que la réforme encourage le travail au moment où la reprise économique est forte. L'argument, ce sont les bons chiffres du chômage, argument balayé par les syndicats, notamment par Michel Boga au nom de Force Ouvrière.
C'est pas les bons arguments, c'est-à-dire que les chiffres du chômage qui ont été présentés hier, soit il y a une baisse des demandeurs d'emploi de catégorie A, donc ceux qui n'ont pas du tout travaillé, mais il y a un vrai transfert sur les catégories B et C, ceux qui travaillent un peu, et puis surtout, on a une hausse de 23% quand même des demandeurs d'emploi qui sont en formation, et ceux-là on les compte plus. Globalement, il y a pratiquement autant de demandeurs d'emploi aujourd'hui qu'avant la crise. Donc les conditions ne sont pas meilleures sur le marché de l'emploi, contrairement à ce que dit la ministre. La ministre se trompe.
Les syndicats ne déposeront pas un nouveau recours en référé contre les nouvelles règles qui entreront en vigueur au 1er décembre. Ils n'en ont plus la possibilité légale. Reste leur recours au fond contre l'ensemble de la réforme que le Conseil d'État devrait examiner dans les prochaines semaines.
Pas question de garder le pass sanitaire sans contrôle parlementaire ni vote jusqu'à fin juillet. Message des sénateurs au gouvernement aujourd'hui. La loi vigilance sanitaire arrive en discussion au Palais du Luxembourg. L'exécutif souhaite prolonger le pass jusqu'à l'été. Le Sénat Sénat aux mains de l'opposition réclame une clause de revoyure à fin février. D'ici là, qui sait, l'épidémie de Covid sera peut-être contenue, même si elle reprend légèrement en France. Plus d'entrées à l'hôpital et en réanimation, plus de contamination, mais un nouvel espoir est à l'horizon. Bonjour Véronique Julia.
Bonjour.
La France a commandé 50 000 doses du traitement anti-Covid de l'américain Merck, le molnupiravir. À quoi sert cette pilule anti-Covid et est-ce qu'elle sera bientôt chez nous?
Alors, ce sont des comprimés antiviraux. Le traitement consiste à en prendre plusieurs et l'exécutif a effectivement commandé de quoi traiter 50 000 personnes. C'est un début. On sécurise l'approvisionnement, explique le ministère de la Santé. De quoi pouvoir l'administrer dès que les instances sanitaires lui donneront le feu vert. L'Agence européenne du médicament d'abord, mais aussi l'Agence française, la ANSM et la Haute Autorité de Santé. L'exécutif attend ce feu vert pour fin novembre, début décembre, avant Noël. Donc, alors un antiviral, qu'est-ce que c'est? Ça permet en fait de limiter la réplication du virus et donc d'empêcher qu'il envahisse l'organisme. Il doit s'administrer en tout début d'infection dans les 5 premiers jours. D'après Merck, le laboratoire qui le produit, ce médicament réduit de moitié mortalité et hospitalisation.
Et qui pourra le prendre ce traitement?
À qui on va le donner? C'est la Haute Autorité de Santé qui le dira. C'est elle qui va déterminer le bénéfice-risque. A priori, ce ne sera pas pour tout le monde. D'abord parce que c'est cher, 6 à 700 euros le traitement. Ensuite, parce qu'on doit mieux estimer les effets indésirables, ce sera donc a priori seulement pour les personnes fragiles, celles qui courent un plus gros risque à être contaminées. L'avantage, c'est que comme c'est en comprimé, ça pourrait être administré par les soignants de ville et pas par injection uniquement à l'hôpital.
Véronique Julia, spécialiste santé de France Inter, merci à vous. Au chapitre santé encore, on sait que les virus non-Covid ont repris de la vigueur après les périodes de confinement et d'exposition limitée aux maladies. 11 régions françaises sur 13 sont en alerte rouge face à la bronchiolite, Bretagne et Corse en orange, à tel point que la Société française de pédiatrie lance l'alerte. En substance, elle demande aux parents de très jeunes enfants de s'appliquer de très strictes restrictions sanitaires. Christelle Gras-Le-Gouen, présidente de la Société française de pédiatrie.
On n'a pas dit qu'il fallait s'isoler, on a dit qu'il fallait des mesures de bon sens et donc limiter les visites au cercle des adultes très proches et surtout des adultes non malades. Et si les parents eux-mêmes tombaient malades, bien évidemment, il faut qu'ils puissent porter un masque pour éviter de contaminer l'enfant le temps que le virus s'élimine.
Vous dites aussi on ne fait pas les courses, en ce moment on ne prend pas les transports en commun avec son bébé, on ne va pas non plus au restaurant avec lui.
Tout à fait, ce ne sont effectivement des endroits où les virus circulent beaucoup et qui n'ont absolument aucun intérêt pour un jeune enfant de moins de 2 mois, vous en conviendrez. Et donc, dans la mesure du possible, il faut s'organiser pour éviter les endroits où il y a beaucoup de monde et bien évidemment aussi les grandes fêtes de famille pour pouvoir garder à l'abri des virus ces enfants le temps qu'ils soient suffisamment solides pour pouvoir y résister. Et en pratique, ce sont vraiment les 2 premiers mois de vie qui conduisent les enfants à des formes graves de la maladie.
La présidente de la Société française de pédiatrie sur France Info ce matin. Évitez le train donc si vous avez des jeunes enfants, mais les vacances de Toussaint se poursuivent et pas de perturbations sur le rail ce week-end finalement. Préavis de grève des conducteurs levé sur le TGV Atlantique. Cette question-là est socialement délicate, celle de la mise en concurrence de la SNCF, opérateur ferroviaire historique, avec des entreprises privées. Première brèche en France, première historique donc, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. La ligne de train régionale Marseille-Nice vient d'être attribuée à l'opérateur Transdev. Vote ce matin pour le valider. Romane Porcon, les syndicats avaient appelé au rassemblement devant le conseil régional.
Même si les jeux sont déjà faits, ces cheminots veulent faire entendre leur colère devant le conseil régional. Cette ligne Marseille-Nice, ce n'est que le début de la privatisation pour Ali Jean Boilam, secrétaire régional cheminot FOPACA.
On s'est battu quand même 3 mois contre ça par des actions de grève qui ont été largement suivies en plus. On savait déjà les enjeux, c'est ce qui va s'étendre sur tout le territoire français. Demain, la SNCF en tant que telle, les citoyens ne la connaîtront plus, notamment au TER, et ça va s'étendre bien entendu au reste des activités, c'est-à-dire TGV, personne ne va être épargné.
Le président de la région, Renaud Muselier, lui promet 2 fois plus de trains pour un prix équivalent. Tout est donc, selon lui, dans l'intérêt des usagers. Yves, contrôleur à Nice, n'y croit pas une seule seconde.
Je pense que la concurrence qui va être créée ne va pas favoriser, par exemple, le déplacement des usagers. Ça va créer des retards, peut-être, entre une compagnie comme Transdev ou autres via une filiale ou autre. Au niveau des infrastructures, on va se rapporter un peu à ce qui s'est passé en Angleterre. Un manque d'entretien, il n'y a pas de miracle. Je ne vois pas comment ils vont faire circuler beaucoup plus de trains. L'usager, parce que c'est l'enjeu principal, ne sera pas gagnant demain. Il va vite s'en apercevoir, malgré tout. Tous les millions qu'a mis la région pour qu'entre guillemets la privatisation fonctionne le mieux possible.
Les syndicats seront donc mobilisés également demain devant le conseil régional. Marseille, Romane Porcon, France Inter.
Et le droit européen impose la mise en concurrence dans toutes les régions d'ici 2023. Il voulait organiser un coup d'État pour s'emparer de l'Élysée. On en sait plus aujourd'hui sur le projet de Rémi Daillé, figure du milieu complotiste, mis en examen il y a 6 jours pour association de malfaiteurs terroristes. Le journal Le Parisien donne des détails sur ce que préparait celui qui est aussi accusé de l'enlèvement de la petite Mia. Vous avez eu confirmation de ces informations. Bonjour Emmanuel Leclerc.
Bonjour.
Le projet semble assez incroyable. Hein.
Oui, ces derniers jours, un proche du dossier qui a parcouru les procès-verbaux de Rémi Daillé et de ses acolytes était stupéfait par l'ampleur de cet engrenage complotiste où apparaît le portrait d'un homme totalement illuminé, certes, mais qui croyait vraiment à tout ce qu'il entreprenait, dit-il, avec une capacité certaine à entraîner pas mal de monde dans son délire. L'opération finale, ce projet Azur, qui visait à envahir l'Élysée, a visiblement été inspiré par ce qui s'est passé lors du mouvement des Gilets jaunes, quand on a vu comment les forces de l'ordre pouvaient être à deux doigts d'être débordées aux abords de l'Élysée, de l'Assemblée nationale ou des médias. Et c'est exactement le scénario envisagé, mais en infiltrant cette fois les cortèges avec des militants entraînés, armés. Rien de révolutionnaire au niveau opérationnel donc, mais le réseau commençait à se structurer dans chaque région, avec à sa tête un ancien lieutenant-colonel aguerri. Pour le reste, ce n'était pas encore une armée de l'ombre, loin de là. Même si des policiers, des gendarmes et des militaires actifs se seraient connectés sur les groupes de discussion, des messageries cryptées animées par Daillé et consorts. Et sur ce point très sensible, nos différentes sources contactées ce matin n'ont souhaité faire aucun commentaire.
Emmanuel Leclerc du service police-justice de France Inter. Troisième jour du procès des accusés du meurtre de Mireille Knoll, cette octogénaire retrouvée morte chez elle en mars 2018, poignardée à 11 reprises et le corps calciné. Il s'agit de déterminer la responsabilité de chacun des deux accusés et leur motivation, antisémite ou non. Vous suivez ce procès pour France Inter. Bonjour Mathilde Vinceneux.
Bonjour.
La cour a entendu ce matin Daniel, l'un des fils de Mireille Knoll.
C'est beaucoup d'émotion d'être là. Je ne comprends pas comment ces deux monstres ont pu tuer un ange. Daniel Knoll, cheveux gris, costume bleu marine, se souvient de sa mère, une femme qui ne faisait que du bien autour d'elle. Elle avait une joie de vivre, une ouverture d'esprit incroyable. Puis il parle des deux accusés dans le box. J'ai beaucoup de mal à les regarder. Comment ont-ils pu faire ça? Une femme démunie qui a échappé à l'Holocauste. Par moments, sa voix se casse et sans jamais le nommer, il évoque l'accusé Yassine Mioub, ce voisin que ma mère a aimé, a reçu. Il la connaît depuis ses 8 ans. Le jour du meurtre, Daniel Knoll se souvient de l'appel de la cousine Huguette. Il y a le feu chez ta mère. J'ai bondi, j'ai foncé autant que j'ai pu. Sur place, on ne savait pas encore ce qu'on allait apprendre 72 heures plus tard, qu'elle avait été lardée de 11 coups de couteau. Je ne l'ai jamais revue, je n'ai jamais pu l'embrasser à cause de ces deux monstres qui ne veulent pas dire ce qu'ils ont fait. J'espère que ma mère va les hanter.
Le procès doit durer jusqu'au 10 novembre prochain. Allez, on vous annonce le retour d'un héros international.
Vers l'infini et au-delà !
Vous l'avez reconnu, c'est Buzz l'éclair, personnage central du film Toy Story. Disney et Pixar viennent de l'annoncer. Il reviendra dans un long métrage qui lui sera entièrement consacré. Ça sera en juin prochain. Dans un instant, un autre robot, Goldorak, un album hommage vient de paraître 45 ans après la naissance de ce héros de manga. L'un des scénaristes et l'éditrice de la Maison Cana sont nos invités. On parlera aussi du succès fou des mangas, grâce notamment au Pass Culture. Vos questions, 01 45 24 7000.
France Inter M.
As you know by now, we have kidnapped your son.
The French Dispatch, le nouveau film de Wes Anderson où différentes histoires publiées dans un magazine américain édité en France.
Hello. Shut up.
Retrouvez tout l'univers de Wes Anderson avec Benicio del Toro, Adrien Brody, Tilda Swinton, Frances McDormand, Léa Seydoux, Timothée Chalamet, Mathieu Amalric, Hippolyte Girardot et Bill Murray.
Yes, it is. No, it is. Yes, it is. No, it is. Yes.
Actuellement au cinéma. Un film France Inter.
La France mutualiste.
Quelle est la capitale du Bénin?
Porto Novo.
Trop fort, papa. Et si je te demande un placement souple et fiscalement avantageux, qu'est-ce que tu me conseilles?
La France mutualiste.
La France mutualiste?
Oui, avec le plan d'épargne retraite de la France mutualiste, l'épargne est même disponible en cas de coup dur. Et c'est jamais trop tôt pour préparer sa retraite.
T'as vraiment réponse à tout.
Vous aussi, découvrez tous les avantages du plan d'épargne retraite LFM Perform sur lafrancemutualiste.fr. La France mutualiste, l'assurance d'un esprit de famille.
La France mutualiste.
Groupe La France mutualiste, mutuelle et intermédiaire d'assurance enregistrée à Lorias.
La météo de ce jeudi.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Automobiles, utilitaires, poids lourds, Euromaster garantit la sécurité et la mobilité des conducteurs.
Bonjour Jean-Michel Golinski.
Bonjour Marion.
Soleil et douceur aujourd'hui.
Ah, effectivement, ce sont les caractères généraux du temps aujourd'hui, avant une dégradation prévue à partir de demain. Alors cet après-midi, malgré des fonds de grisaille persistants de la Bourgogne à l'Alsace, des ondées passagères sur la Corse, des entrées maritimes de plus en plus marquées dans le golfe du Lion et des nuages qui vont s'épaissir sur la pointe bretonne, partout ailleurs le soleil va largement l'emporter. Les températures profitant du flux orienté au secteur sud vont évoluer entre 17 degrés le long de la Manche jusqu'à 21-23 sur les régions méridionales. Il va faire 18 à Paris, Mulhouse, Besançon et La Rochelle, 20 à Limoges, Lyon et Clermont-Ferrand. Cette nuit, des pluies vont arriver par la Bretagne. Demain, elles vont traverser le pays vers l'est. Mais c'est surtout du côté du Languedoc qu'il faudra être vigilant, avec à partir de demain l'installation d'un épisode cévenol apportant de fortes pluies, notamment sur le relief du Gard.
Merci Jean-Michel Golinski de Météo France. Il est 13h30 sur France Inter.
France Inter. Le 13-14. Marion Loup.
Si vous avez 55, 50, même 40 ans, cette petite musique devrait vous dire quelque chose.
Que le raccourci.
Générique de la série animée Goldorak, diffusée au Japon, puis en France, sur Antenne 2 à la fin des années 70 et dans les années 80, l'histoire du prince Actarus qui a vu sa planète détruite par l'empire de Vega. Il se réfugie sur la Terre, attaqué à son tour et la défend avec des amis et l'aide d'un robot de combat appelé donc Goldorak. À l'époque, c'est l'un des premiers héros de manga à arriver en France. Aujourd'hui, Goldorak a 45 ans. Happy birthday! Et pour l'occasion, des Français ont décidé de l'adapter avec l'accord du mangaka Go Nagai. L'album intitulé Goldorak vient de sortir. L'un de ses scénaristes, Xavier Dorisson, est notre invité aujourd'hui. Bonjour.
Bonjour.
À ses côtés pour parler Goldorak et renouveau du manga en général, Christelle Holland, directrice des éditions Cana et de Le Lombard. Bonjour.
Bonjour.
Vos questions à nos deux invités, chers auditeurs, 01 45 24 7000 et sur l'appli France Inter. Xavier Dorisson, vous êtes un scénariste de BD classique en général, BD franco-belge. Vous avez travaillé sur Torgal, sur des séries comme Undertaker. Pourquoi se lancer dans un projet comme Goldorak?
Parce que j'en ai eu l'opportunité grâce à Christelle. C'est en fait Goldorak, c'est la, pour moi, c'était la plus grande série de mon enfance. C'est celle qui faisait que je courais le 100 mètres entre mon école primaire et chez moi pour surtout ne pas louper l'épisode. Et quand vous aviez entre guillemets effectivement un métier d'adulte, vous savez écrire des histoires franco-belges comme vous l'avez cité. Et qu'on vous donne l'occasion d'aller chercher cette énergie incroyable qui est celle de l'enfance et d'en faire une aventure, bah ça se refuse pas.
Ça veut dire que vous vous attaquez à une de vos icônes, de vos idoles.
Ah, c'est peut-être même des idoles de mon enfance, la plus grande idole, absolument. C'est Goldorak, je pense que ça m'a ému comme ça a ému toute une génération. C'est l'histoire qui nous a donné le plus d'émotions à l'époque. Et on a construit tous, je crois toute une génération, a construit une forme d'imaginaire, de rêverie, d'énergie un peu chevaleresque, autour de Goldorak, d'Actarus, de Alcor et tous ces personnages. Et avoir l'occasion de refaire un petit tour avec eux à 49 ans, c'est juste un rêve.
Alors est-ce que vous pouvez juste résumer l'histoire en deux mots pour les très très novices, l'histoire de l'album qui sort ces derniers jours?
Oui, alors la série animée faisait 74 épisodes.
Mmh. On l'a raconté un petit peu tout à l'heure.
Voilà. Et le créateur, Go Nagai, nous a donné l'opportunité de faire le dernier épisode, le 75e.
Dix ans après.
Temps de l'histoire, ça se passe une dizaine d'années après. On a compris, nous, c'est 40 ans après. Mais dans le temps de l'histoire, ça se passe 10 ans après le dernier épisode. Tous nos personnages ont un petit peu vieilli, ils ont grandi, ils ont trouvé des carrières. Bref, ils sont un peu devenus comme les auteurs, ils sont devenus adultes. Tout va bien. Jusqu'au jour où, malheureusement, le dernier Golgoth, donc ce sont les ennemis de la Terre, revient. C'est le plus dangereux, le plus puissant. Cette fois-ci, il sera plus puissant que Goldorak. Et il va quand même falloir défendre à nouveau la Terre, ressouder l'équipe, la reformer. Et c'est ça que raconte le dernier épisode, c'est les personnages comme les auteurs adultes qui revivent une dernière aventure.
Alors Christelle Hollande, comment ça marche là, les ventes de ce Goldorak?
Ah ben ça marche très 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 bien puisque c'est la deuxième vente de l'ensemble du marché du livre juste après Astérix.
Cette semaine. Et qui l'achète ?
Eh bien, visiblement, énormément de monde, même ceux qui ne lisent pas forcément de BD ou de manga. On le voit à partir du moment où on parlait de ce projet, à peu près tout le monde venait nous en parler, même notre boulanger, notre voisin, des gens qui, a priori, ne nous parlaient jamais de notre métier. Et donc, je pense que ça touche énormément de gens et pas forcément des lecteurs ou des fans de dessins animés aujourd'hui.
Mais est-ce que vous avez une visibilité? Est-ce qu'il s'agit plutôt d'adultes qui, effectivement, comme Xavier Dorisson, ont vu Goldorak quand ils étaient petits, ou alors plutôt des jeunes, des enfants, ou un ensemble?
Alors, visiblement, c'est très large. Bien sûr, ça touche d'abord les nostalgiques, ceux qui l'ont vu à la télé. Mais comme souvent, quand vous êtes super fan, vous partagez avec vos enfants. Les enfants sont intrigués et donc finissent par le lire. Comme c'est une excellente bande dessinée, bah vous êtes pris par l'aventure, et même si vous ne connaissez pas Goldorak.
Ça veut dire que le manga ne s'adresse plus seulement aux ados. On a un peu cette image-là, il a acquis une certaine maturité.
Le manga ?
Oui.
Oui, absolument. Oui. Aujourd'hui, en fait, en 2021, une bande dessinée sur deux vendue sur le marché est un manga. Donc on peut dire que c'est beaucoup plus large que juste les fans de manga qui ont démarré et construit le marché du manga comme on le connaît aujourd'hui.
Donc on sort de la contre-culture que ça
absolument
a représenté un peu ces dernières années.
C'est la bande dessinée populaire dans tout le sens du terme, c'est-à-dire que ça touche tout le monde. Et d'ailleurs, le manga parle de tous les sujets, ça va être extrêmement varié pour tous les âges également. Et aujourd'hui, on a un marché français construit qui est extrêmement diversifié, deuxième après le Japon. Et donc, vous avez vraiment du manga pour tout le monde.
Et c'est vrai que vous travaillez chez Kana, qui donc édite des mangas, et chez Le Lombard. Est-ce que vous voyez les parts de marché respectives? Il y a quand même plus de mangas qui sont vendus que de BD classiques, comme on disait tout à l'heure, franco-belge.
Alors, pour le moment, on est que à moitié-moitié, mais c'est déjà énorme, puisque encore l'année d'avant, on n'était qu'à une bande dessinée sur trois qui était vendu était un manga. Donc on voit une accélération, notamment grâce à Netflix, aux dessins animés, qui, à la faveur du confinement, ont intéressé beaucoup de jeunes et de moins jeunes d'ailleurs, qui, n'ayant plus d'autres divertissements, se sont lancés sur les dessins animés. Et comme c'est feuilletonesque, une fois que vous êtes accroché, c'est très très addictif.
Xavier Dorisson, on parlait tout à l'heure du public qui semble assez large pour acheter cet album de Goldorak. Vous, quand vous l'avez écrit, vous l'adressiez à qui? Effectivement, à des gens comme vous, à des gens de votre âge ou des enfants, des jeunes?
Alors, les cinq auteurs de l'album, dessinateurs et scénaristes, sont bien entendu de grands égoïstes. Donc, ils ont commencé par s'adresser à eux-mêmes, à savoir des adultes entre 40 et 50
de
ans. Voilà. Et ensuite, bien sûr, on a eu envie de ranimer un peu cette flamme émotionnelle qu'avaient eu les gens de notre génération. Donc, c'est d'abord à eux qu'on s'est adressé, mais on s'est dit on veut un album qui tienne en lui-même, donc c'est pour ça qu'on met un résumé au départ des épisodes précédents, et on voulait une histoire complète qui puisse plaire à n'importe quel amateur de bande dessinée tout court, qu'il soit d'ailleurs amateur de bande dessinée franco-belge ou manga. Parce
que qui se lit de gauche à droite, alors que les mangas se lisent de droite à gauche.
Oui, parce qu'en fait, l'idée de cet album, c'est que c'était non pas la continuité du manga, parce qu'il y a eu un manga au sens bande dessinée Goldorak, nous on a fait la continuité du dessin animé français. C'est-à-dire le dessin animé, arrivé en France, traduit en français avec des variations de texte qui étaient très loin parfois du modèle japonais. Et c'est en fait, on a fait la continuité d'un rêve plus que la continuité d'une bande dessinée.
On a une question de Victoire qui nous appelle au standard de France Inter, une question plutôt un témoignage. Bonjour Victoire.
Oui, bonjour.
Alors vous aimez bien Goldorak ?
Goldorak, en fait, c'est mon enfance. Mais moi, j'ai réagi en écoutant votre émission parce que le générique que vous avez passé, en fait, c'est pas le bon. Moi, j'ai un don qui sert pas à grand-chose.
Il y en a deux.
Non, à l'époque, moi, j'ai 48 ans, moi, quand j'étais petite, il y avait un générique de début de fin et un générique de fin. Mais vous, celui que vous avez passé, c'est un autre générique.
Donc on a fait du mal à vos souvenirs, Victoire, si je comprends bien.
Le générique, c'est à court vers nous, prince de l'espace. Oui,
on est en train de le chercher dans la base France Inter, on va voir si on peut l'écouter.
Non, ce que je voulais dire aussi, c'est ce qui est intéressant dans votre émission, c'est que pour moi, Goldorak, c'est un dessin animé de mon enfance. Et on y jouait dans la cour de récréation avec mon petit frère. Et c'était pas une BD, nous, les BD, c'était Tintin, Lucky Luke. Et du coup, on avait pas. Moi, je comprends, là, en vous écoutant, qu'en fait, Goldorak, au départ, c'est un manga. Et ce qui est. Alors, je sais pas si dans le Goldorak de départ, il est comme dans mon souvenir. Moi, ce que j'aimais bien, c'est que moi, je suis une fille, j'ai un petit frère. Mais même les filles, nous, on jouait à Goldorak, on faisait Fulgur au Point. Et puis, il y avait Vénusiaque. Donc, il y avait des garçons et des filles qui étaient dans l'univers de Goldorak. Et on était dans les années 70. Donc, finalement, pour moi, mais je l'ai pas revu depuis, c'était très novateur. Et je me demande si le Goldorak d'aujourd'hui, et le Goldorak manga, il est le même que celui que nous, on connaissait quand on était enfant.
Alors, merci, Victoire. Votre réponse, Xavier Dorisson, est-ce que c'est le même Goldorak?
Il y a deux réponses. réponse. D'abord, on pourra faire qu'il y a eu 5 génériques différents et on verra lequel vous allez retrouver dans la base de données France Inter. Et ensuite, alors, au départ, ça a été une création d'un mangaka. Donc, c'était un manga noir et blanc, fait par Gonagai, qui a rapidement, très très rapidement, été adapté par la Toei. Et nous, on n'avait pas le loisir de faire un film, parce qu'en plus, notre album fait quasiment la longueur de 3 ou 4 épisodes. Et donc, on s'est dit qu'on allait se lancer un challenge qui était, à travers une bande dessinée en format franco-belge, en format classique, essayer de recréer l'atmosphère, l'esprit, l'énergie du dessin animé français. Et c'est ce que nous ont dit les lecteurs qui ont découvert l'album jusqu'à maintenant. En fait, même si c'est pas le même média, bien entendu, et donc on l'a adapté, ils ont eu, je crois, le plaisir de revivre comme s'ils étaient devant un nouvel épisode, et c'était notre objectif.
Et vous aviez un cahier des charges du créateur originel, ou pas ? Des règles à respecter
Alors d'abord, on avait son accord grâce à Christelle, et en fait, il a tout vu, tout suivi, donc c'est la première fois en plus qu'il y a un dernier épisode officiel. Et non, on n'avait pas vraiment de contraintes, on s'en est donné à nous, c'était de pas trahir les personnages, c'était de repasser par ces endroits, de ces décors qui nous avaient tous fait rêver. Alors les fans connaîtront le centre spatial, les couloirs, les routes de départ de Goldorak. Et puis une contrainte qui était la nôtre, qui était de pas singer le dessin animé, mais de le respecter et d'apporter une pierre à l'édifice, qui est un regard, on va dire, plus européen et, comme en témoignent mes cheveux blancs, un peu plus âgé.
Christelle Hollens, vous disiez que ce Goldorak, il se vend bien, il arrive dans les titres les plus vendus. Ça participe d'un renouveau du manga en France qui a été poussé par le Pass Culture.
Alors oui, le Pass Culture est un des boosters sans doute du marché BD et manga en particulier, puisque 80% des achats faits avec le Pass Culture, c'est du livre, et parmi ces 80%, 60% sont encore sont des ventes manga. Visiblement, et c'est la remontée des libraires, c'est des jeunes gens qui arrivent et qui achètent des séries complètes, comme les séries sont assez longues en manga, c'était assez impressionnant, ou pour compléter leur bibliothèque.
Ouais. Et est-ce que ça bat en brèche peut-être un certain mépris, une certaine distance que pouvaient garder certains libraires vis-à-vis de ce type de bande dessinée?
Alors, je crois que cette distance, elle existe plus trop aujourd'hui.
Depuis plusieurs années.
Oui, je pense que là, ça fait plusieurs années quand même. C'est un marché jeune, mais qui a quand même 30 ans. Le libraire qui ignore le manga aujourd'hui aurait totalement tort vu l'arrivée massive de jeunes lecteurs. On avait peur que ces lecteurs n'existent plus, que les jeunes ne lisent plus, ne soient plus que devant leurs écrans. Et on voit grâce au manga qu'en fait, non, ce sont des très gros lecteurs quand ils s'y mettent. Qu'ils adorent partager sur ce qu'ils lisent, etc. Et que je pense qu'aujourd'hui, plus aucun libraire n'ignore ça.
Ce succès, c'est un phénomène français ?
Alors non, c'est un succès mondial. Les mangakas, les dessinateurs japonais ont cette faculté de s'adresser aux jeunes gens de manière universelle, semble-t-il. Mais c'est vrai que la France est le deuxième marché au monde, juste après le Japon.
Et comment vous l'expliquez ça ?
Je pense que Goldorak est une des explications, c'est-à-dire qu'il y a un terreau en France réel qui est arrivé avec les dessins animés dont Goldorak, Albator, un peu plus tard Saint Seiya, Dragon Ball, qui fait que notre culture est en fait, en tout cas la culture de nos dessins animés, de notre jeunesse, est toute ancrée au Japon. Et donc les racines sont vraiment japonaises. Et donc on a grandi, on s'est tous passionnés pour ces dessins animés et puis pour ces mangas. Et Xavier est devenu auteur et s'est emparé de ses personnages. Je suis devenue éditrice de BD et de manga aussi pour ça. Et je pense qu'il y en a plein d'autres qui peuvent témoigner de ce succès. Donc c'est, oui, le Japon, on le connaît depuis longtemps.
Et justement, on va peut-être finir cet entretien avec un témoignage. C'est Jean-Philippe qui nous a appelé au standard de France Inter. Jean-Philippe, l'entretien touche à sa fin. Donc si vous pouvez simplement nous raconter un peu ce que vous vouliez nous dire rapidement.
Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci de prendre mon appel. Je vais être très rapide. Bon, moi, voilà, j'ai 42 ans, donc Goldorak a bercé ma jeunesse. Et aujourd'hui, en fait, mon fils de 5 ans regarde aussi les Goldorak sur YouTube. Je lui ai fait découvrir et il adore. Donc, il y a une transmission de ce dessin animé. Et il reproduit, en fait, ce que je reproduisais à son âge. Je jouais aussi, chez Tactarus, voilà, il refait pareil. Et vraiment, c'est, bah, je trouve ça assez chouette en fait que ce dessin animé, ben, il ne vieillit pas quoi en fait. Mmh. Il est vraiment d'actualité.
Merci.
Et donc merci beaucoup à vous.
Merci sur, à vous, Jean-Philippe.
Sujet. Merci.
Merci pour ce témoignage. Xavier Dorisson, scénariste entre autres de Goldorak, et Christelle Hollance, directrice des éditions Cana, qui publie cet album pour les 45 ans du robot de combat. Merci de nous avoir répondu sur France Inter.
Merci à vous.
Merci à vous.
France Inter. Le 13-14.
13h44, à suivre sur Inter, direction les marais salants de l'île de Ré pour notre feuilleton. Aujourd'hui, les jeunes sauniers, ceux qui ont lancé une activité en voie de disparition. Ils apprécient ce métier où il s'agit de faire plutôt que de dire. Le vif de l'histoire, bonjour Jean Lebrun.
Bonjour Marion.
Un petit reporter dans votre vif de l'histoire aujourd'hui.
Ben chacun a son âge, hein. C'est pas Goldorak, c'est Tintin.
On le retrouve tout à l'heure avec vous, juste avant 14h. Tout de suite, c'est une chanson. Bonjour Aurélie Spez.
Bonjour Marion.
Un peu de douceur aujourd'hui. À votre micro, la chanteuse Juliette Armanet qui a choisi un tube de Laurent Voulzy.
Et oui, et comme vous, Marion, Juliette adore le chœur Grenadine, sorti en 1979, composé par Voulzy sur un texte impeccable de Souchon. Et c'est sa chanson préférée à Juliette Armanet et elle était toute à sa joie, elle s'en souvient, quand elle a rencontré Laurent Voulzy pour la première fois.
Il était incroyable, il avait vraiment la chemise blanche avec une petite surveste en soie avec des mouettes et un petit foulard et les cheveux gominés avec des bouclettes. Il était complètement cœur grenadine. C'était Laurent Voulzy, quoi. Mais pour moi, c'est vraiment un socle de la chanson française.
J'ai laissé dans
C'est quelqu'un qui, à la fois, drague en disant qu'il est triste. Le triste lover, quoi. J'aime bien ça.
C'est sucré, c'est coloré.
C'est sucré, voilà.
C'est rouge-orange.
C'est rouge-orange. Il y a un côté fin de l'été, comme ça. Je sais pas, c'est lumineux comme chanson, je trouve. C'est une chanson très lumineuse. Et puis, Voulzy, il a cette voix un peu androgyne. J'aime bien, il y a une vraie modernité dans sa façon de chanter.
J'ai le cœur grenadine.
On n'est pas loin des Bee Gees, on n'est pas loin d'une qualité vraiment aussi, aussi noble, aussi précise.
Des nuits à caresser du papier.
Mais le papier, c'est pas le pied. J'adore, je suis jalouse de cette phrase. Enfin, moi, j'ai l'impression que la chanson, il lui chante dans l'oreille et qu'en fait, il se la chante à lui-même aussi et qu'il se berce, quoi. Il se berce d'illusions, peut-être, hein, Laurent.
Est-ce que vous écrivez à des gens que vous ne voyez plus pour être avec eux ?
Bien sûr, on se tient compagnie avec nos fictions. Enfin, moi, ça me console. Il y a plein de chansons d'amour que j'ai écrites, de désespoir, où je me suis sentie bien mieux après les avoir écrites parce que j'avais eu l'impression de me consoler de quelque chose. Mais par exemple, je continue à envoyer des textos à Christophe. Donc, j'écris des textos. Je sais pas
peut-être
qui les
reçoit.
Je sais pas comment, qui les reçoit, qui les lit. Je me dis bon.
J'ai le cœur grenadine, pas de soleil sur ma peau. Oh, oh, oh.
Et vous, Marion, vous avez le cœur comment ?
Pétillant et plein de caféine, mais je ne donnerai pas de marque à l'antenne.
Vous avez le cœur Schweppes. Le cœur grenadine se déguste devant un coucher de soleil avec un petit dauphin qui bondit et qui nous dit « tu me manques ». Mais derrière le kitsch, il y a toute la virtuosité de Laurent Voulzy qui joue avec des harmonies incandescentes.
Bah, évidemment, il y a du kitsch, mais il y a surtout un musicien absolument extraordinaire. On ne se rend absolument pas compte de la qualité géniale des arrangements qui sont complètement à l'américaine, avec les grandes guitares californiennes. Les chœurs qui sont mis dans des phasers, qui donnent cette texture aussi un peu chimique. Et c'est presque la French Touch avant l'heure. Tout se mélange avec des percussions très sensibles comme ça. Il a dû beaucoup écouter de musique américaine. Enfin, on entend vraiment Los Angeles, quoi. Bisous Laurent, bravo Laurent, bravo, on a tous le cœur grenadine.
Juliette Armanet et le cœur grenadine de Laurent Voulzy. Juliette Armanet qui sort un deuxième album bientôt.
Elle a le cœur chaud en ce moment, Juliette. Elle sortira son deuxième album le 19 novembre et il s'appelle Brûler le feu.
Merci Aurélie Fez et on vous retrouve demain tout feu tout flamme.
À demain.
Et à 13h49 sur Inter, c'est l'heure de retourner dans les marais salants de l'île de Ré, à la rencontre de celles et ceux qui y travaillent. Hier, nous étions avec les anciens héritiers d'une lignée de sauniers. Aujourd'hui, place aux jeunes, ceux qui ont sauvé l'activité à partir des années 90 en arrivant de l'extérieur. Chaque année, la coopérative des sauniers de l'île de Ré attire des apprentis qui viennent comme saisonniers d'abord. C'est le cas de Darren Chambon. Il a pris un peu de temps pour parler avec Sarah Guibaudot après sa récolte de fleurs de sel.
Là, tu as de la fleur de sel qui a égoutté. Et tu as cette formation qui se fait tout l'après-midi, sous l'effet du vent et de la chaleur. Quand tu ne connais pas, bah, c'est presque émouvant. Tu vois la chose se créer devant toi, en temps réel. Et je trouve ça magnifique. Parce que moi, la fleur de sel, avant de commencer le marais, je m'en utilisais en cuisine, vu que je suis cuisinier aussi de formation. Mais je n'avais aucune idée de comment on la récupérait. Alors voilà, une lousse à fleurs, ça va ressembler à ça.
Donc c'est une grande perche, oui. Et au bout, il y a...
Une espèce de réservoir en plastique avec des trous. Et ça va nous permettre de récupérer la fleur de sel qui s'est formée en surface. Et ça nous prend de 17h à 22h parfois. J'ai fait une école de commerce, j'ai fait des études, donc je suis en bac plus 5 actuellement. Et j'ai passé plusieurs reconversions. J'ai commencé, je travaillais à Schneider Electric en tant que gestion de projet informatique. J'ai ensuite bifurqué à Leroy Merlin en tant que chef de secteur dans des magasins de bricolage du coup. Ensuite, je me suis reconverti en cuisine. Et depuis le Covid, je ne savais pas ce que j'allais faire cet été, restaurant ouvert ou non, je ne savais pas. Du coup, je me suis lancé dans le métier de saunier sur l'île de Ré que je connaissais un petit peu pour y être allé en vacances plusieurs fois. J'ai la chance de pouvoir m'installer sur un terrain avec une caravane. On m'a tiré un peu d'électricité, j'ai des bassins de récupération d'eau de pluie, donc c'est vraiment très spartiate. Ça va que c'est que pour quelques mois et pour la saison, c'est presque limite un peu rigolo de jouer l'ermite. Moi, ça me convient très bien comme ça. Et peut-être que l'année prochaine, si je reviens, j'essaierai de trouver un truc un peu plus stable, un peu plus sympa pour pouvoir passer malheureusement les jours de pluie dans une situation un peu plus agréable.
Et qu'est-ce qui vous a émerveillé tout au long de cette découverte ?
En fait, le métier que j'ai pu faire avant, c'est des métiers de bureau, c'est des métiers de diseux. Et je suis passé de plus en plus du diseux au faiseux. Donc, se lever le matin tôt, à la fois sous la pluie, sous le vent, dans le sel, dans des conditions un peu difficiles, loin de la clim et du chauffage des bureaux, loin du café, tranquillement à la machine. Et là, j'ai un outil en main. C'est assez émouvant, en fait, de voir que, par mes petites mains, je suis capable de faire des choses que je ne soupçonnais pas.
Physiquement.
Physiquement, ouais. Physiquement, on est très vite usé par ce métier. Surtout quand on n'est pas habitué, justement, à faire du physique. J'ai eu de la chance de faire de la cuisine avant. Donc, les grosses amplitudes et être debout, ça me connaissait. Par contre, le sport, les bras musclés, les jambes musclées, c'était pas trop mon truc, hein, clairement. Donc, j'ai pris beaucoup de masse depuis que je suis ici. Mais, oui, en fait, c'est tout ça. Je me lève le matin, je sais ce que j'ai à faire, et je sais le résultat que j'aurai à la fin de la journée. Et je sais directement si mon travail a été bien fait ou pas. Et ça, c'est vachement satisfaisant, en fait. Tu vois directement ce que tu as pu créer.
Ce que tu as fait, c'est ça. Un tas de sel.
Un tas de sel, ouais. Littéralement, un tas de sel, mais il peut être très blanc ou très gris. Et c'est très ludique, en fait.
Après une saison sur l'île de Ré, est-ce que vous pensez rester, continuer, peut-être vous installer, reprendre un marais ? Comment vous vous projetez aujourd'hui ?
Il y a énormément de choses qui se passent dans ma tête vis-à-vis de ça. Encore une fois, je ne m'attendais pas à autant apprécier le métier. Malheureusement, ce n'est pas si simple que ça, ne serait-ce que pour avoir un logement. J'ai aussi ma vie qui est à Lyon pour l'instant. J'ai mes amis, j'ai mon ami qui est là-bas. Je pense que c'est trop tôt malgré tout aujourd'hui. Mais c'est sûr que ça me plaît et que la question se pose aujourd'hui pour moi. Quand tu es au bout, que tu vois tous les petits tas de sel qui ont été faits, que tu as ce soleil qui se couche et ce clocher au bout et toutes les couleurs. En fait, chaque minute, les couleurs changent et les reflets dans les airs étaient un dégradé de couleurs. Mais c'est incroyable, en fait, du orange, du violet, du bleu, et ça change constamment. Pendant un temps, et à heures précises et régulières, il y avait un couple de cygnes qui venaient le matin pour se poser et nicher un peu plus loin, et ils repartaient le soir. Et c'était un petit peu notre tempo, et c'était important pour nous parce qu'on regardait le ciel pour pas les rater, quoi.
Une semaine dans les marais salants de l'île de Ré, le feuilleton de Sarah Guibaudot, réalisé par Lucie Lemarchand, à retrouver sur notre site franceinter.fr.
France Inter, le 13-14.
Le vif de l'histoire où l'on reparle de bande dessinée. Un week-end très 9e art s'annonce avec le Festival des Utopiales à Nantes et le Quai des Bulles à Saint-Malo. La BD qui a sa place au musée aussi. Depuis longtemps, Bruxelles avait organisé en 1979 une exposition, le Musée Imaginaire de Tintin. Et Jean Lebrun, le magazine Géo, reprend ce titre, le Musée Imaginaire de Tintin, ces jours-ci avec un hors-série.
Un hors-série qui fait la part belle au musée d'ethnographie. Il est vrai qu'il a été largement conçu par un des animateurs du Quai Branly, Vincent Guiguenot. Et Hergé, rappelle-t-il, a grandi à l'est de Bruxelles, non loin de Tervuren. C'est un établissement autrefois dévolu à l'exploration et à l'exploitation coloniale belge et qui, c'est à noter, accueille de nouveau le public après une longue réflexion et mutation vêtue d'une livrée plus conforme à l'esprit du temps. Mais les musées d'ethnographie, quel que soit l'ordre et l'intention dans lesquels sont présentés les objets, ont toujours provoqué le face-à-face des mondes. L'histoire ne peut pas rester confinée à l'identité. Au même, elle est curieuse de l'altérité. Et Tintin, que Michel Serres traitait de Jules Verne des sciences sociales, en est convaincu. Il a dans sa bibliothèque nombre de livres d'ethnographie. On le voit dans L'oreille cassée en faire la lecture à Milou. Oh, voilà qui est intéressant. Écoute, Milou, ce jour-là, nous rencontrâmes nos premiers Arumbaya. Oui, tu sais, ils avaient une longue chevelure noire et huileuse qui encadrait leur visage cuivré. Tu entends, Milou ? Enfin, à dire le vrai, Milou, à cet instant, il s'en fout. Mais quand lui-même, qui doit bien admettre qu'il est tout petit, se trouve face à face au musée de Clove, Sildavi, avec un squelette de Diplodocus gigantissimus, il en reste stupéfait. Une pareille différence entre les espèces, ça le fait sinon réfléchir, du moins réagir.
Au point que Milou vole un os de la patte avant du Diplodocus, Jean.
Bah oui, c'est un des motifs principaux du hors-série de Géo sur le musée imaginaire de Tintin, le vol. Si notre héros s'est plongé dans un traité qui parle des Arumbaya, c'est qu'au début de l'album L'oreille cassée, un fétiche de ce peuple du bord du fleuve Badourayal a été dérobé. Une planche montre une salle du musée, parcouru par des visiteurs, une cloche tinte, le gardien sonne la fermeture et le lendemain matin, il constate le vol du fétiche de 55 cm de haut. Hergé distille toute une théorie sur le vol dans les musées. Ce n'est pas un larcin comme un autre à traiter comme une anecdote. Du vol vont découler des désordres en série. On pourrait croire que celui du fétiche sera de peu de conséquences puisque son auteur, un nommé Balthazar, le remet à son emplacement. Mais il s'agit en réalité d'un faux. Et Tintin, parti enquêter jusque dans l'ancien pays Arumbaya, dans l'actuelle République de San Theodoros, y découvre toute une industrie de la copie dont les ateliers sont dirigés par un nommé J. Balthazar, le frère du voleur Balthazar. Un véritable embrouillamini, un total chaos.
Et à Clove, capitale de la Sildavie, un vol s'avère autrement grave que celui commis par Milou sur le squelette du Diplodocus.
Ben oui, c'est le vol du sceptre d'Ottokar. Sans lui, le roi perd son pouvoir, qui lui vient du cérémonial. La leçon d'Hergé est claire. Le musée apporte la paix et la sécurité aux objets. Les en extraire par effraction les fait entrer dans une obscurité sans contrôle. Le vol du fétiche Arumbaya va coûter la vie à 4 personnes au total. Et la disparition du sceptre d'Ottokar, alors que l'ennemi bordure, guette aux frontières, pourrait déclencher une guerre et la disparition d'un État.
Conçu par un des animateurs du Quai Branly, le hors-série de Géo paraît au moment où le Quai Branly expose 26 objets que la France va restituer au Bénin.
Eh bien, ce sont comme le sceptre d'Ottokar, des régalia, des objets confisqués par le colonisateur français au roi du Dahomey quand sa capitale fut prise en 1892. Leur restitution a été longuement négociée. Elle doit donner le branle un mouvement et à une législation de longue durée. Un musée, ce sont des regards qui s'entrecroisent, des objets qui considèrent des regardeurs. Et c'est aussi l'apaisement des mémoires, c'est ce qu'a voulu dire le président Macron dans une cérémonie franco-béninoise hier. Il a parlé de vrai chemin vers un but commun entre Français et Africains. Il n'a pas cité le musée imaginaire d'Hergé, mais il aurait pu dire que comme Hergé, il considère le musée tel une thérapie.
Tintin, le vol et les musées, ça pourrait être le titre d'un nouvel album hein, de Tintin. C'est le thème en tout cas de votre chronique, Jean Lebrun. Merci et à demain, 13h58 sur Inter. Dans quelques minutes, la Terre au carré. Bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Marion.
La COP26 approche et l'urgence avec elle.
Exactement, et on va voir comment aussi le réchauffement climatique impacte déjà la France.
Merci et à tout de suite.